Bien alors bonsoir à tous et bienvenue pour la dernière rencontre au coin du livre de l'année. Voilà, on va fermer la porte, ce sera plus facile pour m'entendre et pour entendre Yann. Voilà, nous sommes heureux donc au nom de toute l'équipe de la librairie Jean Calvin, je suis heureux de vous recevoir ce soir pour cette dernière rencontre au coin du livre de l'année, consacrée aux éditions Excelsis. Alors brièvement, les rencontres au coin du livre. Ce n'est pas forcément des rencontres autour d'un livre, où l'on va parler d'un livre. L'idée, c'est d'être réunis dans une librairie pour se rappeler que la librairie n'est pas avant tout un lieu commercial, mais c'est d'abord un lieu d'échange, un lieu d'échange d'idées, un lieu de culture, un lieu où on peut partager. Et donc, l'idée de reprendre, au fond, les rencontres au coin du feu, où les grands-mères racontaient les histoires de la famille, les histoires du pays, et ainsi de suite, et où en famille on se sentait bien, et où c'était des moments de convivialité, d'échange et de partage. Voilà. Donc c'est dans ce but-là qu'on a fait les rencontres au coin du livre, même si ce soir il y a des livres devant nous, plusieurs livres qui viennent de sortir aux éditions Excelsis, puisque nous allons parler ce soir des éditions Excelsis, donc maison d'édition assez originale dans le paysage de l'édition évangélique et protestante française. Et ce soir, donc, nous avons la joie de recevoir Yann, qui est le gérant, ou qui a été gérant.
Jusqu'au 31 mars.
Voilà, jusqu'au 31 mars, Yann Dickmann était le gérant depuis de nombreuses années de la maison d'édition Excelsis. Il en est le fondateur. Et donc, il va nous expliquer les motivations qui l'ont conduit à fonder cette maison, et puis aussi ses orientations, et bien évidemment, je pense qu'il nous dira aussi quelques mots de ses projets, des perspectives, et puis ensuite vous pourrez intervenir, faire des remarques, et poser des questions à Yann. Voilà, donc je te laisse la parole, Yann.
Merci. Bonsoir à tous. C'est un plaisir que d'être avec vous ce soir, et de voir l'enthousiasme qu'il y a à la laisse pour des entreprises d'édition protestante évangélique. Il y a peut-être beaucoup de candidats à créer des maisons d'édition par ici. C'est réjouissant, ou sinon des personnes qui souhaiteraient connaître un peu mieux ce métier passionnant. Pour parler d'Excelsis, il faudrait peut-être dire l'arrière-plan que c'est un arrière-plan biblique, on prend Matthieu 28, les derniers versets. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je crois que c'est là une tâche, vous n'entendez pas ?
Je vais parler plus fort.
Plus fort. Est-ce que vous m'entendez là ? Ça va mieux ? Donc je disais que la base d'une maison d'édition, c'est quand même la parole de Dieu. Et c'est ce verset que je viens de lire de Matthieu 28. C'est pour l'enseignement, pour l'édification des chrétiens dans le monde. Alors, 20 ans de diplomatie m'ont permis de découvrir que nous ne pouvons pas vivre en autarcie, que nous formons un corps social et que nous avons besoin les uns des autres. Et que nous ne sommes pas des solitaires. La diplomatie a permis aussi de faire des rencontres avec des gens de cultures très différentes, et parfois des cultures qu'on a du mal à saisir au début, mais il est important de savoir tisser des liens avec des gens d'autres cultures et de les rapprocher de nous. Une maison d'édition, elle est appelée aussi à développer des relations avec de très nombreuses catégories de personnes. Et elle est aussi appelée à faire du commerce et elle est appelée à accomplir un message. En tant que maison d'édition, nous avons des fournisseurs en amont, que ce soit des imprimeurs, des fournisseurs d'informatique, des fournisseurs de matériel pour l'installation de la maison d'édition. Nous avons des fournisseurs d'électricité, d'énergie, de bâtiments, etc. Nous avons aussi un cadre législatif dans lequel il faut opérer, il faut en tenir compte. Et cela est très important parce qu'on doit aussi répondre aux exigences de la loi. Voilà en ce qui concerne, disons, cette nébuleuse autour d'une entreprise d'édition. J'ai travaillé également pendant 4 ans dans le domaine agroalimentaire et cela m'a permis de connaître un peu le négoce international. Et en tant que maison d'édition francophone, nous sommes aussi appelés à faire du commerce international puisque la France a été riche en colonies dans le passé et que dans toutes ces colonies, il y a des personnes qui parlent français et qui, elles aussi, ont besoin d'approfondir la parole de Dieu par l'intermédiaire d'ouvrages d'édification. Avant de commencer Excelsis, j'ai travaillé pendant 4 années dans une structure associative qui m'ont permis de mieux connaître le monde du livre chrétien, de connaître les besoins des uns et des autres, de faire face à des situations très disparates au niveau de la foi, que ce soit, disons, dans toute la mosaïque des dénominations qui existent dans le monde évangélique francophone. Il y a quand même des idées qui vont un peu tous azimuts. Et il faut aussi là être un diplomate et savoir gérer toutes ces relations. Mais cette période de 4 années a été très productive dans le sens où on a pu connaître le monde du livre chrétien avec ses forces et ses faiblesses. La grande faiblesse, c'est notamment le petit pourcentage de chrétiens qu'il y a en France. Les uns et les autres table sur 300 à 400 000 chrétiens en France, les enfants compris, ce qui est quand même un marché tout petit. Et là-dedans, il faut trouver un créneau où on ne marche pas sur les pieds des autres. Et ce créneau, il n'a pas été facile à trouver. Mais moi-même, comme je n'étais pas de formation théologique, je me suis dit, je ne vais pas créer de maison d'édition si je n'ai pas l'apport d'autres compétences. En 1993, il y a une maison d'édition qui s'appelait Sator qui a déposé bilan. Et cette maison d'édition avait un certain nombre de bons ouvrages. Et elle avait aussi la distribution, elle avait fait le développement et puis la distribution de la Bible dans la version du Sommeur. Et cette version biblique était dans les mains d'une société américaine qui l'avait reprise pour aider Sator à survivre. Mais en dépit de la reprise, Sator n'a plus, en dépit de la vente de cette Bible, des droits de cette Bible à la maison américaine, les éditions Sator n'ont pas pu survivre. Et donc la société biblique internationale se trouvait avec une Bible qui ne se vendait pas en France. Moi j'ai eu un licenciement économique et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire suite à ça. Et je crois que c'est providentiel. Nous avons été juste voir l'ordre d'une réunion avec des professeurs de la faculté de Vaux-sur-Seine et de l'Institut public de Nogent. Et en même temps, il y avait le directeur européen de la Société publique internationale. Et on s'est réunis, et c'est là où nous avons fondé la maison Excelsis. La date de création était le 15 juillet 1995, donc bientôt 16 ans. Alors, les éditions Excelsis sont une structure juridique SARL, c'est-à-dire Société à responsabilité limitée. J'étais donc le fondateur et j'ai eu plusieurs personnes de la fac de Vaud et de Nogent qui sont devenues détenteurs de parts sociales d'Excelsis, ainsi que la Société publique internationale. Et nous avons réfléchi à disons, au concept de la maison d'édition avant de se lancer tous azimuts. Mais nous avons eu la chance de pouvoir retrouver le stock de la maison d'édition Sator qui se trouvait chez un publiciste en région parisienne et qui avait une trentaine de palettes de livres et ne savait pas quoi en faire. J'ai passé toute une journée avec lui pour négocier le prix parce qu'il voulait un prix énorme, colossal à cette époque et nous n'avions pas les moyens de l'acheter à ce prix-là. Mais à la fin de la journée, il nous l'a cédé pour un douzième du prix demandé le matin. Ce stock nous a permis de démarrer l'activité et c'est mon épouse et moi qui ont bossé énormément des premiers temps. Nous avions la chance d'avoir dans notre maison une surface de l'ordre de 90-100 mètres carrés de disponible pour y mettre des bureaux. Et on avait aussi un garage de 70 mètres carrés. La voiture et puis on a stocké les 30 palettes dans le garage et c'est ainsi que Excelsis a vu le jour en 1995. Donc je disais il faut un concept pour une maison d'édition, ça se fait pas comme ça, on se lance pas dans l'édition sans réfléchir à ce qu'on veut faire et le concept a tourné justement autour de la Bible du Semeur. Les parts sociales de la Société biblique internationale nous étaient versées en forme de bibles qu'elles avaient en stock. Et ces bibles que nous avons vendues, il n'y avait qu'un seul modèle. Et nous pensions qu'il était bon d'avoir cette bible, de la faire évoluer, de la faire réviser, si ça a eu lieu en 1998, et de construire autour de cette bible toute une panoplie d'ouvrages pouvant aider les chrétiens à mieux comprendre le message biblique. Donc, à partir de la Bible du Semeur, nous avons créé la Bible d'études du Semeur, qui a été lancée début des années 2000. Et bon, c'était aussi un investissement colossal, et nous n'avions pas les moyens d'imprimer tout ça, et de financer tout cela. Et je suis allé à la recherche de partenaires. À cette occasion, j'ai trouvé trois missions qui voulaient participer au premier tirage et nous étions surpris du grand intérêt que ces maisons d'édition, de ces missions avaient pour la Bible du Sauveur. Et nous avons eu un premier tirage de 50 000 exemplaires, ce qui est colossal. Pour vous dire, ça représente aujourd'hui un investissement de l'ordre de 400 000 euros. Rien que le tirage, sans compter le fruit, les coûts de développement des notes et des introductions de la Bible du Semeur, des cartes, etc., etc. Une fois cette Bible lancée sur le marché francophone, les missions l'ont utilisée sur les marchés, sur le marché africain. Les 22 pays africains, et nous avons gardé un stock de 15-16 000 exemplaires pour la distribution en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Donc voilà le noyau de la maison d'édition, la Bible d'études. Et autour de cela, petit à petit, nous avons développé des instruments d'études, on peut le dire ainsi. Je mentionne tout d'abord le grand dictionnaire de la Bible, qui est en partie une traduction, mais qui, grâce à une collaboration avec les professeurs de Vaud, d'Aix et d'autres facultés, entre autres en Afrique et aussi au Canada, on a pu réaliser un tiers de ce dictionnaire avec des articles rédigés par des francophones. Ce qui fait que ce dictionnaire n'est pas seulement une traduction, une pure traduction, mais c'est aussi une contribution importante du monde francophone. Et il est difficile en France de trouver des bons auteurs pour écrire des articles, mais au cours des 10 dernières années, on a vu que le nombre d'auteurs français ne cesse de croître. Et je crois que toutes les maisons d'édition françaises s'intéressent à ce que ce qui est écrit soit d'un arrière-plan culturel français et francophone. Voilà pour la philosophie qui s'étend petit à petit avec un dictionnaire de théologie biblique, un autre ouvrage de référence. On a édité l'institution chrétienne avec la faculté d'Aix-en-Provence. Et puis nous avons d'autres ouvrages importants que nous avons lancés les dernières années, dont je mentionne de la théologie systématique, qui est un ouvrage qu'on a déjà vendu à plus de 20 000 exemplaires, dont, encore une fois, une grande quantité destinée à l'Afrique francophone, qui, disons, cette quantité a été achetée par la CIM dans le cadre des booksets pour les pasteurs africains. Voilà un peu le noyau le concept de la maison d'édition d'Exercis. Donc, à côté de tous ces ouvrages de référence, il y a toute une série de collections que nous avons construites autour, mais qui ne sont pas aussi, disons, économiquement viables, dans le sens où l'intérêt des chrétiens pour ce genre d'ouvrage est très limité. Et c'est vraiment pour les étudiants, pour les pasteurs, et encore pas tous. Mais nous les faisons parce que nous croyons que c'est notre ministère. Alors, au niveau de la maison d'édition, vous comprenez qu'il faut des moyens très importants pour investir dans de nouveaux ouvrages. À titre d'exemple, développer la Bible d'études coûte à peu près 100 000 euros. Un dictionnaire, le grand dictionnaire, coûte 60 000 euros, rien qu'en développement, sans compter l'impression. Donc il faut réaliser des économies au fur et à mesure. Et une maison d'édition ne connaît pas seulement des succès, mais comme toute structure humaine, il y a aussi des échecs, des souffrances et des difficultés. Et il serait bon que je vous partage cela aussi, parce que ce ne serait pas juste de ne pas les mentionner. La première grande frustration fut quand nous avons eu un contrôle fiscal, et la quatrième année de notre existence, et que ce contrôle fiscal a eu lieu pendant 3-4 mois, où une dame venait toutes les semaines contrôler tout, et pour à la fin dire que tout était en règle, que tout était parfait, mais que... Alors, nous avons démarré Exercis dans une zone de revitalisation rurale, et à ce titre-là, nous bénéficions d'un impôt sur les sociétés réduit. Et puisque Exercis était aussi détenu en partie à 5% par la Société biblique internationale, cela a été remis en cause dans le sens où cette société-là pouvait exercer une influence sur Exercis et que, bon. Donc nous avons été punis avec une amende supérieure à 30 000 euros et qu'il fallait débourser du jour au lendemain. Donc je crois que c'était 34 000 euros. Donc cela a mis un sérieux coup de frein au développement de nouveaux produits, mais nous avons gardé le cap et grâce à Dieu nous avons pu payer ces 34 000 euros et nous avons quand même mis en doute l'honnêteté du fisc et on a engagé une procédure. Et elle a duré 3 ans. Et donc notre avocat nous a défendus. Il a dit nous étions en partance pour l'Espagne, en vacances chez mes parents. et on a mis l'enveloppe dans la boîte à lettres du fisc le 29 ou le 30 décembre, je ne me rappelle plus. Et 4 mois plus tard, on recevait un chèque de 34 000 euros pour nous rendre le tout. Donc, bon, c'était un coup dur, mais en même temps, nous avons pu récupérer ça. Nous avons aussi eu un contrôle de l'URSSAF, et là, tout s'est bien passé, et nous en avons félicité, et on a eu un crédit de 200 euros, dernièrement. Pour vous dire que, bon, il y a des frustrations, des souffrances, et la première souffrance était, quand même, lorsque nous avons sorti 12 petits livres pour enfants, et quand ils sont arrivés, je ne sais pas comment c'est arrivé, les ouvrages étaient pleins de fautes, mais pleins de fautes. Alors, décision à prendre, tout au pilon. C'était 12 fois 2000 exemplaires de chaque au pilon, 24 000 petits ouvrages au pilon. C'était aussi quelque chose de dur. D'autres frustrations, c'est la qualité des traductions. On trouve très difficilement des traducteurs qualifiés pour des livres théologiques. Donc, nous sommes confrontés à des révisions en profondeur, des contrôles qui sont extrêmement chers et peut-être plus chers que si on trouvait un excellent traducteur qui voudrait être payé un peu plus. Donc, voilà encore une frustration ou une souffrance. Autre souffrance, c'est la mévente de livres qu'on croyait bons. Heureusement que ça ne se produit pas trop souvent, mais je dirais qu'il y a quand même un ouvrage sur 10 dont les ventes laissent à désirer et que le livre ne rapporte pas ce qu'il devait rapporter pour payer les frais de développement et d'impression. Et je mentionnerai encore une souffrance qui est aussi pénible à vivre, c'est les retards de paiement de la part des clients. Et parfois, on leur accorde parfois 82 jours au fin du mois pour des librairies, mais il arrive souvent qu'on nous paye 6 mois après. Donc il faut avoir les reins solides pour survivre tout cela. Développer. Et en tant que gérant d'Excelsis ou d'une maison d'édition quelconque, on est à jouer un peu l'acrobate, parce qu'on doit se remuer dans tous les sens. Et c'est pas facile, parce que tout change en permanence. Je peux parler d'abord par exemple, des transporteurs. Des transporteurs qui au début étaient pas chers, qui étaient réguliers, qui faisaient bien leur travail. Petit à petit, ça se dégrade, il faut chercher d'autres. Petit à petit, ça augmente trop, il faut chercher d'autres, etc. Transporteurs qui ne sont pas soigneux avec les colis, qui les jettent, qui les traitent comme des ballons de foot. Les livres s'abîment et c'est toujours pour à nos frais. Donc ça, c'est une constante dans notre métier. Les imprimeurs, c'est la même chose. Nous souhaitons toujours travailler avec des imprimeurs qui font de la bonne qualité. Et nous avons changé énormément d'imprimeurs. D'une part, peut-être que le client ordinaire, le client que vous êtes, peut-être vous êtes très exigeant, mais si vous prenez un livre dans vos mains, et vous voyez la régularité de l'encre, l'utilisation de l'encre sur les diverses pages. Il y a des imprimeurs qui impriment très grand une page et très en clair une autre, parce qu'il y a un mauvais réglage de l'ancrage. Il y a souvent aussi des problèmes de collage, où les feuilles peuvent se détacher, ne sont pas bien coulées, ou que la colle est trop rigide. Donc il y a plein de petits problèmes qu'il faut voir. Donc, je visite aussi régulièrement les imprimeries. On imprime un peu partout dans le monde. On a imprimé surtout en Europe, mais on a aussi imprimé au Canada. Et peut-être qu'on imprimera un jour en Colombie. parce que les frais sont plus bas et que beaucoup de primeries en Europe déposent le bilan et que vendent leur matériel à des imprimeurs dans les pays du tiers-monde, et notamment dans des pays comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays qui sont des pays émergents. Nous sommes aussi constamment à la recherche de nouveaux clients. Je crois que la librairie Carin l'est aussi. Les clients prennent de l'âge petit à petit. Les parents deviennent grands-parents. Les grands-parents achètent pour les petits-enfants, n'achètent plus pour eux-mêmes. Les jeunes achètent pour être enseignés, pour apprendre. Donc c'est un monde qui est en mouvement perpétuel. Et rien n'est acquis de façon durable. Nous cherchons aussi à travailler avec des missions, comme je vous l'avais dit. Et là aussi, les missions, ça bouge en permanence. Les missions vivent surtout de dons. Et quand il y a une grande crise comme celle de 2008, les dons aux missions ont baissé fortement. Et en conséquence aussi leur disponibilité pour acheter des livres pour leurs missionnaires ou pour les pasteurs avec lesquels ils travaillent. Nous travaillons également avec un ancien professeur de théologie pratique d'Aix-en-Provence. Depuis une bonne dizaine d'années, nous avons, en tant qu'exercice, travaillé dans le domaine de la mise en page et de la production de manuels de formation pour des pasteurs laïcs en Afrique francophone. Et ce sont des cours qui sont donnés, par exemple, sur des sujets comme la visite pastorale, la prédication, l'éducation chrétienne, les groupes d'études bibliques, l'adoration. Ce sont des cours qui sont donnés pendant une dizaine de jours, et puis 6 mois plus tard, on fait un bilan pour voir si les gens ont bien compris, s'ils ont appliqué, s'ils ont rencontré des difficultés. Et cela nous a permis aussi de nous faire connaître dans plus de 20 pays en Afrique francophone. Et nous nous réjouissons d'avoir pu participer à ce travail-là. Je travaille également pour une mission américaine qui s'appelle la Christian Reformed Church, qui est à Grand Rapids. Je suis le directeur de la littérature, du ministère de littérature pour le monde entier, mais surtout pour l'Amérique latine, où je développe les marchés du livre justement académique, de livre qui est dans le droit prolongement d'Excelsis. Et là aussi, je rends ces services pour Excelsis différentes dans une vingtaine de pays de l'Amérique latine. Et nous développons actuellement le marché brésilien qui bientôt aura ses 2 premiers ouvrages. Et puis nous allons aussi développer la littérature pour la Chine. Il y a un vaste marché. On estime que dans l'an 2020 ou 2025, il y aura 400 millions de chrétiens en Chine, donc il y a des besoins énormes d'apprentissage. Et nous espérons là aussi mettre un pied à collaborer avec d'autres, à mettre sur un pied l'édition chrétienne. Alors, j'espère que je ne suis pas trop long. Alors, Excelsis et son environnement. J'ai déjà dit que nous travaillons sur une niche de marché et d'autres n'osaient pas investir, donc on ne marche pas sur les orteils des autres. Et cette niche de marché nous donne beaucoup de satisfaction. La concurrence est réduite, mais ces derniers temps, elle semble augmenter dans le sens où quelques maisons d'édition veulent aussi publier des livres académiques. Nous avons pour tout un réseau de collaboration, que ce soit avec les organismes officiels, que ce soit avec les dénominations, que ce soit avec les institutions d'enseignement, ou que ce soit avec des groupes d'église. Et je crois que ça, c'est très important pour une maison d'édition, de faire remonter de la base les besoins qui existent sur le terrain. Parce que quand on est dans les bureaux une grande partie du temps, on ne sait pas toujours ce qui se vit sur le terrain, et c'est grâce à ce contact, en faisant des stands à droite et à gauche, qu'on apprend les besoins qui existent dans les milieux chrétiens. Un autre aspect très important, mais je n'ai pas besoin de le souligner, j'ai déjà mentionné parmi les frustrations les délais de paiement, c'est-à-dire que la gestion rigoureuse est très importante. Et l'investissement personnel de chaque personne au sein de l'équipe est essentiel. Si l'équipe ne comprend pas le sens de la mission et qu'elle ne comprend pas que c'est pour l'édification du corps de Christ, si c'est tout un simple travail, elle n'a pas compris le sens vrai de la mission. Alors nous avons une petite équipe, nous sommes 5 au sein d'Excelsis, et tout le monde est engagé. J'ai 2 fils qui travaillent avec moi. Donc le fils aîné, il a un DESF, donc un diplôme d'études supérieures comptables et financières. Le deuxième fils, il a fini sa formation, il est beaucoup plus jeune, sa formation en tant que webmaster, donc il s'occupe du site internet. Et on a une fille qui est à Dijon et elle est infirmière, elle prend soin de ses parents de temps en temps. Donc, où se situe Excelsis dans le monde des éditions évangéliques en France? En l'espace de 15-16 ans, on a pu grandir de façon assez importante. Mais on reste quand même des maisons d'édition très petites et fragiles. Toutes les maisons, les grandes maisons d'édition évangélique sont petites, et parmi ces petites, nous sommes une des grandes. Mais pourquoi elles sont fragiles? Justement parce que les structures sont petites, il y a peu de personnes, il suffit qu'un tombe malade ou qu'un prenne congé, qu'on se rencontre dans des difficultés de gestion, de gérer la boutique. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de mentionner quelques maisons d'édition. Certainement, beaucoup de clients ne connaissent pas les maisons d'édition, ils connaissent plus les livres, les titres. La plus grande maison d'édition, disons protestante, c'est la Société biblique française, parce qu'elle édite énormément de Bibles. Mais qu'elle n'est pas seulement protestante, elle est plutôt œcuménique, dans le sens où elle publie beaucoup de Bibles avec les livres deutérocanoniques ou apocryphes, selon certains. Et que le marché catholique est beaucoup plus grand que le marché évangélique. Ensuite, nous avons 2-3 ans, maisons d'édition évangéliques, telles que Vida à Nîmes, qui sert les milieux pentecôtistes, qui a à peu près notre taille, qui diffuse aussi une maison d'édition canadienne qui s'appelle Ministère Multilingue. Une autre maison d'édition importante, à notre niveau, disons plus une maison d'édition qui produit des livres de doctrine et d'enseignement, c'est les éditions Emmaüs à Saint-Léger en Suisse. Une troisième maison importante, c'est la maison de la Bible à Romanem, sur Lausanne, aussi en Suisse. Mais elle a d'un côté des librairies et elle a une activité en 3 langues, c'est-à-dire en français, en italien et en allemand. Elle a une librairie à Zurich, qui vend essentiellement des livres en allemand, et elle a des librairies en Italie, donc des Bibles en italien et quelques ouvrages en italien. Et puis une structure en France. Ensuite, je peux vous mentionner encore 2 ou 3, les éditions Impact à Trois-Rivières au Canada, qui produisent surtout des commentaires de MacArthur. Les traductions sont de qualité canadienne. Cela n'est pas, disons, dit dans un sens négatif, mais plutôt que on a souvent du mal à comprendre ce qui est traduit. Ensuite, il y a une maison d'édition clé à Villeurbanne. Elle produit surtout la Bible online, je pense que vous la connaissez. Et il y a les éditions BLF à Maubeuge qui produit des ouvrages surtout d'exhortation sur le couple et la famille. Et il y a finalement les éditions Farel, qui traite aussi de tout ce qui est de couple. Tout le monde connaît Chapman, je pense, tous les langages de l'amour pour les enfants, pour les adolescents, pour les grands-parents, pour les parents, etc. Voilà. En ce qui concerne nos collègues, nous avons à travailler avec les librairies, et l'Hexagone est grand, 550 000 km². On a la Suisse avec 50 000 chrétiens, on a la Belgique avec 10-15 000 chrétiens, et on a le Québec avec 20-30 000 chrétiens. Donc ce n'est pas énorme, mais nous avons pour cela des diffuseurs, c'est-à-dire des entreprises qui achètent en gros chez nous et qui revendent dans leur pays à des librairies. Donc, les exportations d'Exercice représentent bon an, mal an, vers ces trois pays à peu près, dans les 20 à 25% de son chiffre d'affaires. Et puis, cela vient s'ajouter de temps en temps, lorsque des missions achètent des livres chez nous, des quantités très importantes de livres pour les pays du tiers-monde. Comme à la fin de l'année dernière, on a eu une commande de 4 ouvrages importants. La Bible d'études, le grand dictionnaire de la Bible, la théologie systématique et un livre sur la jalousie, imprimé chacun à 18 000 exemplaires, 125 tonnes, 4 remorques qui ont été emballées récemment et dont une grande partie a été expédiée en Afrique pour équiper les pasteurs laïcs. Finalement, en France, la distribution se fait par la librairie Jean Calvin, qui grandit de façon importante, forcément, grâce à l'engagement. Les librairies CLC qui sont là depuis la fin des années 70. La Maison de la Bible avec quelques librairies. La librairie Baptiste, c'est ici à Paris. Et puis quelques librairies avec des bénévoles dans certaines régions, comme à Tours, Orléans, et dans le Midi, à Toulon, à Cannes, à Nice. Et d'autres toutes petites structures, elles vivent du bénévolat, elles n'arrivent pas à financer un employé, et certaines d'entre elles sont appelées à se fermer parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent reprendre ces librairies. Donc, le réseau de librairies en France est petit, ne couvre pas tout le pays. Et heureusement qu'il y a Internet et que nous avons développé notre site Internet depuis 1998 et que celui-ci permet d'atteindre tout le monde en France et à l'étranger. Et nous avons, au fil des ans, eu des commandes de personnes de plus de 40 pays. Et le chiffre d'affaires du site internet représente plus de 15% de notre chiffre d'affaires, ce qui est important. Alors, pour conclure, quelques chiffres. En 16 ans, la première année pleine, c'est-à-dire l'année 1996, nous avons fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'an dernier, 2010, nous avons fait 840 000 euros de chiffre d'affaires et le personnel est passé de 3 personnes à 5 personnes dans cette période de 15 ans. Et nous avons développé dans cette période à peu près 250 ouvrages et les ouvrages les plus imprimés, c'est-à-dire ils ne sont pas tous vendus parce qu'on a encore des stocks, c'est la Bible d'études du Sommeur, où nous avons vendu plus de 100 000 exemplaires. le grand dictionnaire de la Bible, plus de 30 000. La jalousie qui détruit, plus de 24. La théologie systématique, plus de 20 000. Et puis quelques Bibles pour enfants qui dépassent aussi les 20 000. Si tout cela a pu se réaliser, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à l'engagement de mon épouse et de mes enfants et des personnes qui travaillent avec moi. Et je suis reconnaissant au Seigneur de nous avoir permis tout cela. Et je conclurai avec le verset 20 de Matthieu 28, la fin de ce verset. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous, en tant qu'exercice, nous avons pu expérimenter que Dieu était à côté de nous tous les jours de l'existence d'exercice. Je vous remercie et je vous dis soli Deo gloria.
Merci. Bien, alors merci Yann pour cette rétrospective, pour ce beau parcours d'exercice. On pourrait même qualifier d'aventure, hein, parce que c'est une aventure, l'édition quand même. Voilà, avec ses réussites, ses échecs, comme tu l'as souligné, et puis aussi les complications administratives, les obstacles sont nombreux, hein, ça demande de la persévérance. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques, s'il y a des questions. J'ai pour ma part deux questions, avant de laisser la parole au public. Combien, à ton avis, il faut publier de livres en moyenne par an pour être une maison d'édition qui a une assise stable, solide? Et est-ce que tu peux nous donner quelques titres qui ont été des méventes, hein, parce que tu nous as cité des titres qui ont été des réussites, mais quels titres ont été des méventes et pourquoi, au fond, selon ton analyse?
Bon, je commencerai par la dernière question. Les titres qui se vendent peu sont des titres qui sont très spécialisés. Et je mentionnerai notamment une collection que nous aimons beaucoup, la collection de théologie biblique. La théologie biblique n'est pas encore entrée dans les mœurs de lecture parmi les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est une collection de théologie biblique? La collection de théologie biblique veut réfléchir sur des thèmes, un thème biblique, mais veut trouver le fil conducteur tout au long de la Bible. Et ça nécessite quand même, disons, des études sérieuses et approfondies pour pouvoir dégager ce fil conducteur. Et c'est ça dont les livres de cette collection traitent. Et nous ne l'avons pas mise à l'arrêt, mais nous imprimons des petites quantités, c'est-à-dire 500 ou 600 ou 700 exemplaires. Il y a aussi des titres très spécifiques qui ont du mal à s'écouler. Certains ouvrages de la collection anabaptiste, bien que, disons, notre philosophie éditoriale est plutôt conservatrice, évangélique conservatrice. On édite des ouvrages anabaptistes pour, faire connaître cette pensée, bien de sortir un livre sur découvrir le réformateur Menno Simons. C'est un compatriote d'ailleurs. Mais dans cette collection, il y a plusieurs ouvrages qui se vendent mal. Par exemple, le miroir des martyrs.
Dommage, le combo.
Voilà. La première question.
Combien de titres?
Oui, combien de titres est-il publié pour. Je vais te transformer la question. Dans le sens où on peut éditer beaucoup de livres avec quelques phrases, sans gros investissement, et produire 20, 30, 40, 50 livres. Mais on peut produire des livres comme ça, on ne peut pas en produire 15 par an. Et donc c'est une question de plus, nous on raisonne plus en nombre de pages que nous pouvons faire. C'est-à-dire, ça demande une capacité de mise en page, une capacité de relecture et de correction. Le temps passé au niveau correction, comme je vous l'ai dit, est important. On a un salarié qui s'occupe de la correction des ouvrages, Sylvain Triconneau, peut-être quelqu'un, certains le connaissent, je pense à Charles Nicolas. Et il va dans les bibliothèques, dans les médiathèques, chercher des bibliographies pour voir si des titres n'ont pas été traduits en français, et pour voir si les citations que le traducteur a traduites, qu'il n'a pas pris la peine de trouver, si ça a déjà été traduit en français ou pas. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc nous raisonnons en nombre de pages publiées par an. Notre capacité se situe entre 5000 et 6000 pages par an. Et quand je parle d'une page, c'est de l'ordre de 300 à 350 mots. Alors, la capacité, disons, cette capacité de production nous permet de financer la structure, de financer les salaires du personnel et d'investir dans de nouveaux projets. Mais il ne faut pas se louper lorsqu'on édite un livre de grande importance comme celui-ci, ou comme le commentaire sur l'évangile de Jean qui vient de sortir, de Carson, qui comporte quand même 976 pages. Donc, et nous avons, rien que ces derniers ouvrages qui sont là sur la table, représentent déjà quelques milliers de pages. Donc entre celui-là, 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 plus un ouvrage pour enfants que nous avons développé en interne, qui sont les trois paraboles de Louis XV, dessinées par une dame de notre église dans la Drôme. Donc, ça c'est un investissement important aussi, parce que les dessins, c'est pas évident à faire. Et nous allons également essayer de les vendre à l'étranger. Nous avons déjà vendu des titres rédigés par des francophones à l'étranger. Et ça, c'est aussi une source de revenus importante. Je mentionnerai la Bible d'études, dont les notes, les introductions ont été traduites déjà en néerlandais, publiées en fin 2009 aux Pays-Bas. Il y a des livres sur le pardon et l'oubli qui ont été traduits en turc et en espagnol. Des livres sur la science et la foi qui ont été traduits en chinois et en turc, en anglais. Donc, on voit petit à petit aussi que la France mûrit et qu'elle peut aussi avoir le statut des Anglais à long terme, je dis, pour produire des choses de qualité appréciées à l'étranger. Et notamment en Amérique du Sud, je constate qu'il y a un grand intérêt justement pour la littérature chrétienne européenne qui a une autre approche que la littérature américaine. Excuse-moi.
Merci. Il y a d'autres questions ou remarques?
D'accord. Question intéressante. Comment choisir les livres? Je vous ai dit au début que nous avons réuni des professeurs de Vaud. Plus tard, il y a des profs d'Aix qui se sont joints à nous et que j'ai nommé les directeurs de collection. Et les directeurs de collection sont, pour la plupart d'entre eux, des profs de faculté de théologie. Donc c'est eux qui lisent beaucoup d'ouvrages étrangers, qui nous conseillent. Parfois, moi, je les conseille. Il m'est arrivé de lire 50 livres anglais par an pour faire un peu le tri, dire je l'envoie un tel pour avoir son opinion et dire est-ce que ce livre est intéressant ou pas. Travailler avec les professeurs de faculté a un autre avantage, c'est-à-dire que les livres qu'ils conseillent sont souvent de lecture obligatoire pour les étudiants. Ces étudiants sont formés avec les livres que nous publions. Donc plus tard aussi, ils deviennent pasteurs, ils deviennent missionnaires, ils vont aussi conseiller nos ouvrages. Donc c'est un marché qui s'est développé petit à petit, et on a vu le fruit de cette collaboration intégrée avec les profs, avec les institutions, mais aussi avec certaines dénominations où on a des échanges importants. Donc ça, c'est pour répondre à une partie de votre question. La dernière question est plus difficile, c'est-à-dire comment décider du tirage et des prix. Il est sûr que décider d'un tirage, c'est difficile, mais avec l'expérience, on sent le marché. C'est-à-dire au début, on faisait peut-être des tirages trop importants parce qu'on voulait avoir un prix bas. Plus le tirage est important, plus les prix d'impression sont bas, et on peut répartir les coûts de développement sur un tirage plus important. Au début, nous faisions des tirages de 1500-2000 pour certains ouvrages. Aujourd'hui, on en fait moins, on adapte pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour la collection théologie biblique, on imprime 500, 600-700. Et du coup, les livres sont chers. Pourquoi ils sont chers ? Développement, impression et petit marché. En plus de cela, il faut faire vivre la filière, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre un distributeur à l'étranger qui veut une grosse remise, qui veut 60% de remise. Donc il faut déjà que le livre coûte plus que, disons, que les 40% ou 30%. Plus notre part de bénéfices et de risques, plus la remise accordée à l'étranger. Donc, si vous voulez, dans le monde séculier, les facteurs de multiplication utilisés pour calculer le prix de vente correspondent à peu près à entre 6 et 12 fois le coût de production. Donc, si un livre coûte, disons, impression incluse 5 euros, ils vont le vendre à 50, à 40, à 60 euros. Ça dépend aussi du tirage. Dans le monde chrétien, le facteur de multiplication se situe entre 3 et 5 en général. Et la plupart, lorsque c'est des petits tirages, on ne peut pas vendre avec un facteur 5, on vend avec un facteur 3. Donc le prix est élevé, la marge et petite pour faire vivre et le distributeur et les libraires, plus la casse qui se produit, et plus les méventes qui se produisent sur un livre qu'il faut reporter pour avoir le bénéfice sur d'autres. Donc voilà, c'est pas évident. Maintenant, il y a des livres qui se vendent toujours, les livres de référence se vendent toujours, donc ça, mais c'est des gros investissements comme celui-là ou ce genre de livre, ou la théologie systématique ou le dictionnaire, ça vend toujours, mais l'investissement au départ est très important. Et on ne peut pas faire 3-4 ouvrages en même temps avec une petite équipe.
D'autres questions, remarques ?
Quand tu as parlé de 6 ouvriers, c'est ça ?
5, pardon.
Est-ce que tu comptes les traducteurs ?
Non. Il est sûr qu'on ne compte pas les traducteurs, on ne compte pas les éventuels correcteurs extérieurs. Parfois, on a utilisé des correcteurs extérieurs. On ne compte pas non plus le personnel qui est à l'imprimerie.
Oui. Les traducteurs aussi.
Oui, oui. Bien sûr. Les traducteurs, c'est toujours à la tâche. Donc, en général, c'est des personnes qui ont du temps libre et qui passent 1, 2, 3 heures par jour pour traduire, et l'autre partie se consacre à notre métier. On a eu un pasteur à Montpellier qui a travaillé pendant plus de 10 ans à mi-temps pour nous, et l'autre mi-temps, il était pasteur donc, à Saint-Gilles-du-Fesc. Maintenant, il est prof à Vaux-sur-Seine. Et on a un autre que tu connais, Jean-Philippe Bru, qui est traduit pour nous une heure par jour. Donc, tout dépend un peu de la personne. On a aussi des traducteurs qui nous traduisent des livres pour enfants. Ils sont beaucoup plus simples à traduire, il faut moins de compétences, mais ils font de la bonne qualité parce qu'il faut adapter le langage aux enfants. Et les livres pour enfants sont importants aussi pour nous.
Je me demandais aussi, est-ce que votre ressource de livres à publier va se situer surtout dans des livres traduits, ou est-ce que vous allez chercher à susciter des rédacteurs de livres français pour diverses raisons, pour éviter le travail d'adaptation et puis pour qu'il y ait une production française aussi, ça peut être intéressant éventuellement. Puis je voudrais demander aussi, est-ce que le fait de passer par les facultés de théologie, qui est une garantie de qualité, ne peut pas créer la difficulté de produire des livres grand public? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais sur des livres populaires, comme Vida fait. Donc, voilà, évidemment, vous avez notre objectif, mais est-ce que les livres, par exemple, Carotte Calmen diffuse en Afrique du Nord, tout en étant beaucoup plus simple, ne permettrait pas une diffusion beaucoup plus large du coup, tout en ayant un niveau correct. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Bon, je pense que quand tu étais absent, j'ai parlé un peu des ouvrages rédigés par des francophones. Je disais qu'on a développé, par exemple, le grand dictionnaire de la Bible. On a fait exprès pour trouver des auteurs français. Et ils ont écrit un tiers du grand dictionnaire. Et on trouve de plus en plus d'auteurs francophones disponibles à rédiger des ouvrages. Sylvain Romerowski a écrit « Les sciences du langage et l'étude de la Bible ». Donc ça a été financé par le Conseil national du livre. C'est-à-dire qu'il a reçu 6 mois de financement. Voilà des exemples. Nous allons publier à la fin de l'année, si possible, le dictionnaire de théologie pratique, rédigé 100% par des auteurs francophones. Donc il est en bonne voie, pratiquement 60-70% des textes. Il faut encore les relire, les mettre en page. Donc c'est encore
Qui c'est qui le dirige, ce dictionnaire?
Le dictionnaire est dirigé par Christophe Payard. La deuxième question concernant des livres, disons, si on se prive de faire des livres pour le grand public. Nous allons embaucher Christophe Payat pour une journée par semaine, justement pour combler ce déficit. Et il va s'occuper, à partir du 1er septembre, de créer des collections d'études de la Bible et des ouvrages simples sur des sujets variés d'éthique, de doctrine, d'histoire, un peu de tout ce qu'on peut imaginer dans un langage simple pour le grand public. Et nous voulons faire des guides d'études bibliques pour un groupe de maisons. Ça, c'est, tout ça, c'est un chantier au niveau des idées. Maintenant, il faut trouver les auteurs pour les faire.
Donc, c'est Christophe Payat qui dirigerait cette collection, là, cette nouvelle collection, mais ce ne serait pas lui l'auteur de cet ouvrage. Après, il recruterait des auteurs.
Ouais.
Et essentiellement, donc, sur les domaines de l'étude de la Bible, pour aider à étudier la Bible ou,
C'est-à-dire, c'est des commentaires simples. Ça, c'est disons un commentaire qui est accessible à tout le monde, mais qui a quand même une petite partie technique. Mais il est surtout, il s'adresse surtout à des pasteurs, à des étudiants et des leaders de groupes d'études, de maisons ou d'églises. et les autres seraient un niveau un peu inférieur, avec un langage peut-être plus simple, pour tous les chrétiens, pour le chrétien lambda qui n'a pas fait des études spécialement, mais qui veut approfondir le sujet.
Encore une intervention, une remarque, une question?
Oui.
Est-ce que, au niveau du pourcentage, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt vous qui allez vers les auteurs? Ou est-ce que les auteurs parfois se proposent? Est-ce que vous les acceptez? Comment ça se passe?
Bon, disons que là, on aborde un sujet assez difficile, dans le sens où nous déterminons nous-mêmes ce que nous voulons faire. Et en déterminant nous-mêmes ce que nous voulons faire, on va choisir nous-mêmes les auteurs que nous pensons être les plus appropriés pour écrire sur le sujet concerné. Donc, cela veut dire que l'auteur ne va pas venir chez nous, c'est-à-dire qu'il peut venir chez nous, mais si ce n'est pas inclus dans le programme, c'est, malheureusement, on doit reporter, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et il y a beaucoup d'auteurs qui nous proposent des ouvrages, et encore cette semaine, on en reçoit deux ou trois. J'ai écrit sur ce sujet, est-ce que vous voulez le publier? C'est un Africain qui habite au Zimbabwe, qui a produit deux ouvrages, et si on veut l'éditer, le publier, le commercialiser. Bon. Quand on a telle demande, ça demande... D'abord, qui est ce personnage, quel est son arrière-plan, à quoi s'intéresse-t-il, pourquoi l'a-t-il écrit, est-ce qu'il a écrit quelque chose de convenable ou est-ce que c'est n'importe quoi. Donc, il faut faire passer du temps que nous n'avons pas. Donc, nous préférons ne pas donner suite tout de suite. Et on n'a pas le temps, on regrette. Mais ce n'est pas dans notre programme. C'est-à-dire qu'on est ceux qui décident d'avance ce que nous voulons faire et pas se laisser inonder de manuscrits à droite et à gauche pour publier quelque chose qui ne rentre pas dans une ligne donnée. J'espère avoir répondu à ta question.
Est-ce que vous créez souvent des collections?
La création des collections s'est faite dans le comité d'édition avec les responsables des collections existantes. Donc, je ne sais pas, vous connaissez les principales de la collection, je vous ai mentionné la collection théologie biblique, la collection hors ouvrage de référence, la collection Terre Nouvelle, la collection Perspective Anabaptiste, la collection Horizon Culturel. Pour la mission. Donc, c'est une des dernières collections qui a vu le jour et nous l'avons développée avec un Suisse qui donnait des cours, qui était chargé de cours de mission à Vaud et qui donne des cours de missiologie un peu partout dans le monde, en Afrique francophone, qui est venu me voir un jour à Logne. C'est là où nous avons discuté. On a mis la collection sur pied avec l'accord des autres membres du comité des éditions. Est-ce que j'ai suscité l'enthousiasme pour démarrer d'autres maisons d'édition?
Ça fait peur, en fait, déjà tout, donc il n'y a rien à faire.
Ah, il y a encore beaucoup à faire.
Alors qu'est-ce qu'il y aurait à faire?
Ce qu'il y a à faire au niveau des éditions, il y a encore un travail important à faire parce que tout bouge. Comme je vous l'ai dit, rien n'est stable, rien n'est figé. À chaque fois, il y a des nouveautés qui paraissent. Le langage évolue, il faut réadapter les choses. Et si on n'est pas éveillé... Ce qu'il y a à faire, la première chose qu'il y a à faire, c'est mener une réflexion sur l'avenir du livre. Et notamment réfléchir sur le livre numérique. Va-t-il faire son entrée en force dans le milieu évangélique protestant ou pas? Ça, c'est, disons, quelque chose à réfléchir en profondeur, et c'est pas à prendre à la légère. On a vu la musique chrétienne s'écrouler comme un château de cartes avec les MP3, et les chrétiens qui ont une très bonne éthique ne copient jamais, comme vous le savez, mais néanmoins ça a été copié et le marché s'est effondré. Et bon, nous craignons que des choses semblables puissent se produire avec le livre numérique. Il y a aujourd'hui, à mon avis, il y a encore un grand obstacle, c'est d'acheter la tablette de lecture, un iPad, par exemple, ou le Kindle d'Amazon. Une tablette, vous allez investir entre 3 et 4 ou 500 euros. Donc c'est vrai que ça équivaut quand même à une vingtaine de livres. Mais la plaquette, elle ne sert pas uniquement à lire. Vous pouvez d'ores et déjà, avec l'iPad numéro 2 qui est sorti une année après l'iPad numéro 1, avoir un clavier et puis avoir accès à Internet. Et je vois déjà les jeunes dans les églises, lorsque le pasteur est un peu soporifère, les enfants en train de jouer sur leur tablette au lieu de lire le texte biblique. Qui est-ce qui contrôle quoi? Je me souviens, aux Pays-Bas, parce que j'allais avec ma grand-mère à l'église, il y avait toute la file des fidèles sur les trottoirs avec une Bible sous la main, et c'était la Bible, mais ce n'était pas des pareilles plaquettes. Et aujourd'hui, avec une plaquette numérique, on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, c'est une réflexion à mener. Et aux États-Unis, la lecture numérique a pris un essor énorme. Et Amazon a publié l'information il y a quelques mois. Ils ont vendu plus de livres numériques que de livres papier depuis le début de l'année. Les plaquettes aux États-Unis, on estime que 12% de la population était déjà équipée. Alors qu'il y a une crise économique incroyable aux États-Unis, mais sur les nouveautés, il y a de l'argent disponible. Donc, voilà. Je dis, ça c'est un secteur sur lequel il faut réfléchir, approfondir. Et toucher du papier, c'est quand même un peu différent que de lire sur une plaquette. La plaquette, elle n'est pas encore flexible, mais avec l'iPad 3, 4, etc., il faudra investir 300-400 euros tous les ans pour suivre la technologie qui va plus vite que la musique. Et je ne sais pas si la bourse des chrétiens va aussi vite.
C'est vrai qu'on constate déjà, on voit chez nous, dans les équipes, de plus en plus de personnes suivent la lecture publique sur iPhone. Est-ce que pour vous, la besoin d'édition, c'est une menace ou est-ce qu'il faut s'adapter justement à son pouvoir?
Comme j'ai pris ma retraite, j'ai dit je laisse ça à ma génération plus jeune, qui, comme mes enfants, grandissent avec le biberon de l'électronique. Et moi, j'ai fait mon bac avec une règle de calcul japonaise. On trouvait déjà 3 chiffres pour le logarithme après la virgule. C'est déjà incroyable aujourd'hui. Vous avez des possibilités qui bouleversaient complètement la donne. Donc, moi, personnellement, je dis qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait parce qu'il y a la technologie qui évolue très rapidement, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les logiciels pour adapter les textes à la lecture évoluent eux aussi. Donc il faut attendre un peu que le marché se stabilise. Et il faut voir si le prix des tablettes de lecture baisse. Sans cela, ça sera très difficile pour les maisons d'édition de se lancer là-dedans. Il y a déjà la maison BLF qui, à Maubeuge, qui propose sur son site le téléchargement de nombreux de leurs ouvrages. Ils veulent tout mettre sur Internet en téléchargement. Après, eux, ils sont une association, ils ne sont pas soumis à TVA. Bon, il y a des disparités, aussi des distorsions de concurrence. La TVA sur le livre numérique, pour l'instant, est à 19,6. On parle que la TVA va baisser à 5,5 à partir du 1er janvier prochain. Mais ce n'est pas acquis avec les besoins en trésorerie de la part des pouvoirs publics. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou remarques ?
Est-ce que vous pratiquez la réédition de l'ouvrage Pernet, l'ouvrage ancien Pernet, l'épuisé ?
Nous réimprimons régulièrement les ouvrages que nous avons développés nous-mêmes. Nous n'avons pas fait d'impression de livres périmés. Mais c'est aussi un marché sur lequel on peut réfléchir. Et la technologie d'impression numérique a fait de gros progrès ces derniers temps. Et on peut imprimer à un coût relativement bas des livres à des tirages très bas, même à l'exemplaire. Il y a déjà des machines qui vous sortent un exemplaire de 300 pages en 3-4 minutes. La machine est chère. Encore faut-il avoir le marché et il faut avoir suffisamment de titres pour faire tourner la machine. Mais le prix d'impression est, disons, peut-être trois fois plus élevé que si on fait une quantité de 1000 exemplaires. Mais c'est aussi un marché sur lequel on peut se lancer. Mais il faut réfléchir parce que bon, il y a l'investissement, il y a aussi, est-ce qu'il y a un public suffisamment important à être intéressé dans ce genre d'ouvrage ? Il y a déjà la Maison Impact qui édite la Bible annotée de Godet. Et que c'est imprimé en numérique, mais ils impriment 300 exemplaires. Ce n'est pas l'unité.
Voilà. Bien, merci beaucoup. Bien, alors je vous propose de nous arrêter pendant l'été. Juillet-août, il n'y aura pas de rencontre ici. La prochaine rencontre au Point du Livre, donc, ce sera en septembre prochain, je pense, septembre, octobre, je ne suis pas encore déterminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cycle de conférences de l'année prochaine traitera de la diversité protestante. Hein, alors, on abordera, je pense, à peu près tous les aspects du protestantisme, diversité de confession. On abordera notamment la question du réveil. Robert Saguin, Saint-Jacques Blocher et Daniel Travier viendront nous faire une conférence à deux voix sur Robert Saguin, conférence je pense passionnante. Vous avez déjà entendu ici, vous avez écouté la voix et la verve, la rhétorique de Daniel Travier, donc c'est, je pense que ce sera un sujet très intéressant, mais on abordera aussi par exemple un grand philosophe protestant, Kierkegaard, avec Frédéric Fognon. On parlera aussi de l'engagement des églises dans la cité, dans la politique, avec Michel Bertrand, le doyen de la faculté de théologie de Montpellier. Il y aura aussi la fille d'André Chausson, donc Frédéric Ebrard, qui viendra nous parler de son père, André Chausson, et donc de son œuvre romanesque, et peut-être aussi de son travail d'archiviste, hein, puisque c'est un des grands archivistes français, André Chausson. Voilà, donc on abordera de nombreux sujets ayant trait au protestantisme, et on commencera ce cycle, je l'espère, en novembre. Pour l'instant, je n'ai pas de conférencier pour novembre, mais en tout cas, de janvier à juillet, voire août, peut-être aussi avec une conférence sur Karl Marx avec Bernard Cotteret. Voilà. Donc, je pense à un programme assez varié, et puis aussi des rencontres au Coin du Livre. Hein, je pense qu'il y aura une rencontre au Coin du Livre sur les orphelinats en Afrique, sur le travail aussi d'un pasteur africain, un travail excellent qu'il fait en Tunisie. Voilà, donc différentes rencontres aussi comme ça, et peut-être d'autres encore, je l'espère. Et on énumérera aussi, parce que nous aussi, on essaye d'être inventif à notre niveau, on inaugurera d'autres rencontres, et notamment les rencontres des lecteurs, où on proposera de faire ici un cercle de lecteurs, au fond, et de partager les lectures qu'on a appréciées, pour donner envie aux autres de découvrir ces livres. Et donc, on se donnera du temps pour lire quelques pages, quelques morceaux choisis, voilà, pour susciter le désir de venir non pas à l'iPad, mais au livre, encore, livre papier. Moi, je pense que le livre papier a encore quelques années pour lui. Même si je pense aussi qu'à terme, peut-être plus vite qu'on le pense, 15, 20 ans, je ne serais pas étonné que le livre devienne un objet d'élite. C'est, je pense, le chemin que prend en tout cas le monde des librairies, des éditions. Certainement que le marché va se restreindre. Enfin voilà, ça c'est une opinion personnelle, mais je ne pense pas que l'avenir soit très très rose. Voilà. Donc en tout cas, je vous donne rendez-vous pour toutes ces rencontres. Et pour l'heure, vous pouvez encore vous désaltérer juste à côté de la